Alors, vos questions. Oui, monsieur, on vous écoute.
Alors, moi, je voudrais commencer par ce qui me semble être une inféodation du droit par l'économie, quand vous parlez d'efficacité. Et les termes que vous avez utilisés sont assez significatifs et sont empruntés pour moi à l'économie et à la notion de coût marginal ou d'utilité marginale. Et d'ailleurs, c'est assez significatif puisque vous parlez du coût dans les deux exemples, en tout cas dans l'exemple concernant le marché public, le coût que ça a pu générer pour l'autorité. Et je pense qu'il faut rester attentif à ne pas emprunter à d'autres disciplines, je dirais, des paradigmes qui, parfois, ne sont pas toujours transposables au droit. Alors, il y a aussi la question, je dirais, qui a été abordée par Madame Beaucourt, qui est celle de est-ce qu'il y a des formalités dont on pourrait se débarrasser parce qu'elles ne sont pas essentielles. Mais je pense que c'est dans l'application des formalités qu'il faut rechercher le sens de ces formalités. Une formalité qui est prévue par le texte, par le législateur ou par l'administration au niveau réglementaire n'a peut-être pas toujours un intérêt d'un point de vue général, théorique, mais une fois qu'elle est appliquée, on va se rendre compte que l'égalité entre soumissionnaires, la concurrence ou d'autres valeurs sont, remises en question, sont ébranlées par le non-respect de la
Alors vous êtes d'accord avec...
Et donc c'est en ça qu'on ne peut pas tout prévoir, le législateur ne peut pas prévoir toutes les diversités de situations pratiques qui peuvent se poser pour modifier tous les textes, ce serait impraticable. Et pour dégraisser le mammouth, parce qu'on veut supprimer certaines règles, etc., ça me semble quand même être une tâche, une entreprise qui semble presque impraticable. Je voulais aussi revenir sur la question, dans le droit judiciaire, on ne dit pas de nullité sans grief, c'est aussi à peu près le même raisonnement. Est-ce qu'il y a un grief? Est-ce qu'il y a une atteinte? Il y a aussi la vue de droit qu'on peut utiliser comme figure juridique. Est-ce qu'il y a un avantage ou est-ce que l'avantage est trop minime par rapport à l'effort que l'on demande dans le cadre de l'exercice du droit donc c'était quelque chose que je voulais partager avec vous. Oui, il y a aussi la question de l'interprétation téléologique que le juge doit emprunter. Certes, la règle est là, mais enfin, quel est son but? Pourquoi est-elle mise en place? Est-ce qu'il y a vraiment une atteinte à l'intérêt? Toutes ces notions qui s'entrepassent.
Donc, le dernier point, des outils existent, des outils juridiques, notamment pour moins de formalisme, vous avez raison, vous en pointez quelques-uns. J'ai essayé de montrer aussi comment on peut le faire. Votre première question sur l'économie, qui m'interpelle effectivement, dans le petit texte que j'ai fait en 2009, j'écris ceci, excusez-moi de me citer, et encore pire, après ça, de même citer mon père qui est ici présent. Les mesures d'efficacité ou des analyses coût-bénéfice, écrivais-je, ne cherchent pas à se substituer aux décisions politiques à prendre, mais tendent à aider à prendre celles-ci en connaissance de cause, quitte à ne pas choisir la solution la plus efficace, pour des motifs que l'on considérera comme exprimant mieux l'intérêt général, lequel, nul ne le conteste, n'est pas que financier. Donc, l'outil économique est utile, mais l'outil économique n'est pas décisif. Et je poursuis. Il en résulte que les économistes confirment 1. L'efficacité est une valeur comme d'autres, certainement ni prioritaire ni absolue, mais réelle néanmoins. Le calcul économique a permis d'incontestables progrès dans nos sociétés sur le plan de leur efficacité, notamment grâce à la construction d'un paradigme qui a amélioré la compréhension de leur fonctionnement. Ce même calcul s'est révélé capable de se mettre au service d'autres valeurs, telles que l'équité, pourvu que l'équité reçoive une signification suffisamment précise. Donc c'était dans un texte que tu as écrit. L'efficacité au service de l'équité en économie, mélange, variation de l'éthique, hommage à Jacques Dabin, Saint-Louis, 1994. Donc c'est des idées qui ont déjà été réfléchies, et les juristes, vous avez raison, ont peur de la tyrannie de l'économie. Et a raison, je pense aussi.
Paul Martens a écrit là-dessus, oui. L'homo-économie.
Bien entendu. Et c'est pour ça que j'ai dit que l'efficacité est une notion suspecte, hein, bien entendu. Mais ce n'est pas pour autant que je veux l'ignorer totalement. Je trouve qu'il faut la récuser. Je crois que les économistes eux-mêmes n'ont pas tous cette tendance de domination, qu'il faut, si c'est le cas, montrer qu'il y a des limites et que des gens écrivent déjà, il y a 20 ans, plus de 20 ans, qu'en réalité, c'est ni prioritaire, ni absolu, mais quelque chose qu'on ne peut pas ignorer.
Oui. Collègues de cette institution et de l'Université de Liège, le deuxième, un vol. ça a été cité, mais peut-être trop vite pour que la notion d'efficacité telle que vraiment reçue dans la profession des économistes, pardonnez-moi, de l'interdisciplinarité, ça a parfois des valeurs, l'efficacité, c'est chercher à faire les choses au moindre coût, que ça prélève le moins possible de ressources, pas du coût financier, des ressources de la société, hein, au moindre coût. L'effectivité, et ça a été très bien dit, est l'aptitude de l'action menée à correspondre au but poursuivi. Alors, je me permets de rappeler cette distinction parce que je trouve dans l'invocation de l'efficacité comme une valeur poursuivie à respecter, si on veut dire, dans le cadre du formalisme, il y a peut-être une distinction à faire entre le fait qu'un formalisme ait comme propriété d'empêcher de faire les choses au moindre coût pour la société. Je répète, ce n'est pas des sous, c'est des ressources, c'est du travail. Bien, donc, cela, au contraire, lorsqu'il y a des pertes d'effectivité, c'est lorsque l'administration, l'instance en question, produit quelque chose, mais qui ne correspond pas du tout à l'objectif poursuivi par la société. Il me semble que le juge pourrait précisément, selon le type d'efficacité ou effectivité mise en cause, être en position d'agir ou de ne pas agir. Bref, je voudrais dire que la valeur en cause dans le cadre d'efficacité versus effectivité n'est pas la même. Et ça pourrait éclairer la confrontation, en fait, ou le jugement que l'on porte plutôt sur les formalismes. Voilà,
merci pour ça. Les réactions ?
Non, non, je crois que les juristes gagnent à mieux comprendre les outils économiques et à mieux déterminer en quoi le formalisme qui porte atteinte à un but qu'on voulait atteindre, lui, dans le sens d'effectivité, mais le mot est ambigu en français parce qu'on l'utilise aussi comme étant la mesure du respect de la règle, l'effectivité. Hein, donc quelque chose de purement statistique et sociologique. Est-ce que la règle est effective, mais pas effective dans un sens, a-t-elle produit des résultats attendus ? Mais bon, qu'importe. Cette idée de n'atteint pas le but poursuivi oblige l'autorité, voire le juge, à se réinterroger sur la raison de la forme. Reprenons un candidat qui est hors délai pour déposer son dossier. C'est vrai que ce n'est pas le résultat attendu, c'est qu'on aurait aimé qu'il y ait beaucoup de candidats et il y en a un très bon, un cas de dossier qui est trop tard. Mais tant pis, il y a là une valeur supérieure, celle de l'égalité. On ne va pas, au nom du but, de dire on veut celui-là parce que c'était quelqu'un de connu qui a produit un beau projet. Tant pis, il est hors délai, on ne sait rien faire, me semble-t-il. Sauf si l'autorité dit finalement aucun des projets me convient et je relance le marché, on peut toujours le faire. Mais dans d'autres cas, le formalisme dans l'affaire Tassin est quelque chose qui n'atteint pas le but souhaité, me semble-t-il. Oui, Emmanuel.
Je me demandais, donc il y a des formes qui ne devraient pas mener à l'annulation de l'acte parce que soit l'intérêt qui est protégé par la forme n'est pas mis en cause ou parce que selon l'aspect de la forme n'est pas de nature à avoir influencé le contenu de la décision. Est-ce que ça ne sont pas des cas qui sont finalement peu fréquents et que dans la plupart des grands projets d'infrastructure portés par les pouvoirs publics, qui sont les cas dans lesquels la critique du formalisme sera trop bien précédente, les normes, les formes qui n'ont pas été respectées et qui ont mené à une annulation, c'était des formes qui étaient censées protéger des intérêts, soit les intérêts des riverains, les intérêts des soumissionnaires avancés, et qui étaient susceptibles d'avoir un impact sur le contenu de la décision. Et donc, puisque dans la reine économique, le débat concerne souvent des cas dans lesquels il y a des formes qui ont un sens, qui n'ont pas été respectées, c'est la question qui devrait paraître aussi, savoir s'il n'y a pas trop d'intérêts différents protégés dans le cas de la procédure administrative. Est-ce que le nombre d'intérêts dont doit tenir compte l'administration dans le cadre des procédures de marché public, d'urbanisme ou d'environnement ne sont pas trop nombreux ?
Okay. Voilà, je comprends. Je pense pas. Je suis d'accord que dans les grands projets, les décideurs, les promoteurs se plaignent qu'en fait l'autorité n'est pas seule à décider et que quelque part les citoyens ont leur mot à dire vu les règles de participation. Règles de participation dont la méconnaissance, la Cour constitutionnelle l'a dit dans un arrêt de 2013, la méconnaissance n'est pas un vice de forme, a-t-elle dit. Elle a clairement dit que la violation de règles de participation du public, c'est en fait toucher à la substance même de la décision. Parce que quand on n'interroge pas le public, on se prive de gens qui auraient pu dire, ça c'est la procédure, quelque chose sur le fond et faire changer l'autorité d'opinion. Donc, effectivement, je pense que l'efficacité doit intégrer Si on donne l'efficacité comme l'aboutissement dans un délai raisonnable d'une procédure, même pour des grands projets, elle doit intégrer cette dimension de participation des tiers, qui n'est pas que de la procédure, qui ont leur mot à dire sur le fond, et qui rendent aléatoire le résultat final par rapport à ce qu'on souhaite. Mais si l'autorité se dispense de faire cela, il n'est pas étonnant, puisque c'est une valeur qui est méconnue, une valeur fondamentale, je crois, qu'elle se fasse sanctionner par les juges, et ceux qui sont regrets de la chose ne peuvent pas dire que c'est qu'un vice de forme. Non, ce n'est pas un vice de forme, ça, pour moi. Nicolas Tzadler pour en dire un mot. Oui.
C'est juste pour vous dire, très brièvement. Oui. Mais donc, si tous les mécanismes qu'on imagine permettent d'éviter une sanction, une attitude très forte formaliste du juge, par exemple, des mécanismes de boucle administrative,
oui,
ou bien d'intérêt moyen, ce genre de choses-là, ne permettent pas de remédier à ce qui est perçu comme le problème fondamentalement dans le monde politique, dans le monde économique, c'est le fait que les grands projets publics subissent un retard important en raison du respect des procédures. Bon. Est-ce qu'alors le débat est bien posé finalement? Est-ce qu'on ne court pas, même avec les réformes, la réforme de l'organisation du Conseil d'État, etc., est-ce qu'on ne court pas, on ne met pas en place une grande voie parce qu'on ne parle pas de la même chose finalement?
Mm-hmm. On n'est pas assez intervenu pour certains. Les promoteurs disent toujours que ça ne va jamais assez vite. Hein. Attention, il ne faut pas oublier. Oui, oui. C'est un peu facile. Et les administrations promettent toujours qu'elles vont aller plus vite alors que soit elles sont, d'un, sous-équipées et deux, certains projets méritent bonne réflexion. Une étude d'incidence, ça prend du temps. Il faut faire des études de différents secteurs de l'environnement et il n'est pas anormal qu'une étude dure 12 mois quand on a un projet important qui va atteindre un milieu déterminé, un endroit, etc. Et donc, en termes de mobilité, en termes de protection de tous les secteurs de l'environnement. Je crois qu'il faut plutôt éduquer les promoteurs à l'idée que ça prend un délai, que c'est un délai qui est organisé, encadré, procéduralisé, avec participation des tiers, mais au bout du compte, il y aura une décision qui sera correcte dans sa forme. Ce sera un oui, ce sera un non. Et il préfère un processus de 2 ans, mais auquel on se tient, qu'un processus de 8 mois qui finalement échoue chaque fois pour des raisons formelles, etc. Et Nicolas, oui.
Je vous donne la parole. Hein,
pardon. Tout d'abord, bravo pour ton analyse. Une première remarque sur le dépoussiérage de formes inutiles. Un exercice a quand même été mené au niveau de toutes les entités dans le cadre de la transposition de la directive sur les services. Il n'y a pas d'analyse scientifique de la plus-value en termes de facilité administrative de cette réforme, mais il y a quand même une réforme qui a été entraînée par la mise en œuvre de cette directive. Sur un plan plus fondamental, je voulais rejoindre un peu les propos de monsieur. C'est qu'entre les formes purement triviales, dont l'annulation ne peut être pas nécessairement entraîner l'annulation de l'acte contesté, mais celles qui sont à ce point graves ou substantielles, la suspension, l'annulation, la requise, on fait face à une zone grise aussi large que la mer du Nord, où les formes peuvent être appréciées un peu selon les saisons, les goûts et les couleurs. Ça peut apparaître comme un vert gris sombre pour le peintre Artand, par exemple, peut apparaître comme un bleu azur quasiment méditerranéen. Et certes, la jurisprudence d'Anthony ne fait, à mon avis, que refléter d'autres tendances jurisprudentielles. Et là, on voit un peu l'européanisation du droit administratif sur ce continent. Bien essayer de remédier à ça, mais avec un problème majeur quant à la charge de la preuve. Puisque, selon la jurisprudence, si j'ai bien compris, il revient alors au requérant de démontrer que le respect de la forme par l'administration a conduit à une solution différente. Refus de l'octroi du permis contesté. Ce qui relève dans pas mal de dossiers complexes d'une probation diabolique. À cet égard, je crois qu'il est utile de se référer à la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne en matière d'études d'incidence qui vient d'ailleurs d'être invoquée, qui est une matière particulièrement complexe. On a des éléments de nature scientifique qui appellent à l'objectivité de la donne. Il y a aussi des éléments de nature subjective quant à l'appréciation du paysage ou de la
lieu entourant le riverain. À propos du droit administratif allemand, la Cour de justice condamne la charge de la preuve qui repose de manière disproportionnée sur le requérant. La Cour estime, mais ça c'est mon interprétation de l'arrêt, qui n'a pas été commenté, qui n'a été commenté dans aucune autre langue que l'allemand, sauf le roman. La charge de la preuve doit être supportée par la partie défendresse, l'autorité ayant délivré le permis, et la partie intervenante, le promoteur ayant obtenu le permis. Donc là, il y a peut-être une nuance qui vient de Luxembourg, peut-être de remettre les pendules à l'heure, de dire bon, on peut pour ce type de formalité exiger. La démonstration du lien de causalité, mais il ne faut pas aller trop loin. Lorsque le requérant est dans l'impossibilité de démontrer que le choix de l'administration aurait été plus rationnel si toutes les formes avaient été réunies, eh bien que cette charge de la preuve soit déplacée sur la partie défendresse.
C'était la date de l'arrêt ?
15 octobre 2015, commissaire contre Allemagne, qui suit un arrêt du 7 novembre 2013, comme à chaque fois sur les études d'impact. Mais bon, c'est une matière assez spécifique, mais c'est vrai que quelques exemples qui ont été cités, touchent chaque fois des matières extrêmement complexes.
Non, merci Nicolas, effectivement, pour attirer l'attention là-dessus. Jusqu'où va-t-on au détriment du citoyen ? Il y avait déjà la même crainte sur l'intérêt au moins des personnes morales qui agissent pour défendre l'environnement. Elles craignaient qu'elles ne pouvaient plus invoquer des moyens puisqu'elles ne sont pas directement touchées quand ça ne concerne que leur objet social. Et la Cour constitutionnelle est passée par là pour donner une interprétation raisonnable de l'article 14, paragraphe 1er, alinéa 2, dans le contentieux environnemental. Et pour nous donner, c'était un peu pour moi un peu de la parano, mais enfin il vaut mieux le dire et assurer que le Conseil d'État interprète son texte d'une manière qui ne soit pas un recul dans l'accès aux juges pour les associations de protection de l'environnement. Enfin, avec la Convention d'Aarhus, on ne voit pas très bien comment on aurait fait pour aller en retrait. On est quasiment dans l'action populaire, ce que je ne déplore pas du tout. Hein. Et alors, effectivement, si on met en œuvre le mécanisme lui-même, lorsqu'il faut vraiment démontrer que la forme aurait pu, méconnu, si son respect aurait pu aboutir à une décision différente, effectivement, il faut être raisonnable dans les conséquences qu'on en tire. Là. Je comprends. Il suffit pas parfois de l'affirmer. Hein, c'est un peu facile. On a un collège mal composé. Est-ce que les éléments auraient changé ? On aurait fait telle enquête de plus, etc. Oui. Tout dépend de la gravité de la violation de nouveau. Qui va permettre de dire là, s'il y a un risque que la situation pouvait être autre, alors c'est suffisant. Il ne faut pas une démonstration plus forte que ça. Une probabilité que.
Moi, je voulais rajouter à ça, ça a l'air sans doute un peu basique, mais pour moi, ça, c'est le bon exemple qui montre à la base les formes. Si on s'attache, et François l'a montré, à l'idée que les formes sont nourries de sens, et notamment. L'histoire, il faudrait faire une petite histoire des formes montrant que c'est ça aussi qui a justement contribué de manière décisive à mettre de l'ordre dans l'action du pouvoir et à lutter contre l'arbitraire. Et moi, je crois que ces évolutions récentes, à l'aune de l'efficacité, réintroduisent une forme d'arbitraire. Notamment parce que, mais c'est l'exemple que vous montrez, tout à fait, c'est que pour le citoyen, en tout cas pour les administrés, non seulement le système va être complexe, savoir ce qu'il faut, quelles preuves il faut aborder, dans quelles conditions, et devant rien que, je veux dire, la complexité qui découle de l'idée qu'on se pose ici, qu'on va différencier les formes, que certaines formes vont avoir des sanctions différentes, ou qu'il faudra démontrer que si la forme n'avait pas été respectée, il y a tout ça, rien que cette complexité est une porte ouverte à l'arbitraire. Alors je sais que ça a l'air un peu basique, mais je ne parviens pas à sortir de là, c'est de me dire, il doit y avoir une forme, doit servir un principe, elle doit être sanctionnée, et si ce n'est pas, si elle ne sert plus un principe, ou sont là, même pour ce que vous disiez vous, monsieur, quand mais monsieur Nécodou, c'est pas grave, ah oui, c'est votre pote, hein, ça, vous disiez oui, mais finalement le juge, il a l'interprétation théologique sous son coude qu'il pourrait utiliser, mais de nouveau. Alors, je crois que la forme ne joue plus son office si on commence à la différencier comme ça et la modéliser, parce que la forme, au départ, en tout cas, dans l'histoire, dans l'encadrement des pouvoirs et de l'action administrative, ça a été une manière et alors efficace, je pêche par le même péché que je reproche, de brider et entourer et garantir un encadrement de l'action administrative. Et alors, j'ai l'impression qu'on pourrait multiplier les exemples à l'envi, que dès le moment où on est sorti de cette idée que la forme ne servait plus à un principe et que parfois elle peut pas, ou à certains moments la respecter, à certains moments pas, eh bien qu'on va tourner, réinventer l'eau chaude. Quelqu'un, oui, monsieur.
Ce qui va se passer plus tard.
Oui, oui.
Et est-ce que cette forme d'application au cas par cas, finalement, de l'importance de la norme,
oui.
n'est pas aussi une forme d'inefficacité dans certains cas? Finalement, la forme, est-ce que c'est pas une valeur sûre, quelque chose d'assez efficace?
Une forme shopping.
On sait que quand on respecte la norme, alors dans certains cas, on va perdre un peu de temps, on va prolonger en fait, un peu d'argent, d'autres ressources.
Très bonne question. Merci Maxime. Je pense que l'autorité doit effectivement a priori partir du principe qu'elle doit respecter les formes et que si elles existent, c'est une raison d'être et ça sécurise sa décision in fine, et quitte à ce que ça prenne un peu de temps, que ça prenne des ressources, etc. Mais dans certains cas aussi, elle doit pouvoir, me semble-t-il, expliquer pourquoi Maxime, la forme ne doit pas être respectée. Et donc dire, ici, malgré, par exemple, que ce soit d'ordre public sur l'emploi des langues, eh bien, je ne me traduis pas. Et je m'explique pourquoi. Je dis dans ma décision que ça n'est pas nécessaire. Et j'espère être là-dessus, être suivi par un juge raisonnable, parce qu'en fait, c'est un faux problème. C'est un faux problème, ça n'est pas quelque chose qui justifie d'être maintenu. L'affaire, oui. Oui, exactement. C'est ça que j'allais dire. Oui. Voilà, c'était aussi mon deuxième point, c'est que, et c'était ce qui avait été évoqué dans les moyens, en disant à Bull, mais écoutez, vous êtes irrecevable à agir, vous avez participé à tout le processus. Et in fine, vous venez avec une bombe qui fait sauter depuis le début, parce que le marché est nul depuis le début. Et pourtant, on n'est pas. Mais il y a une jurisprudence, Forma Nova, où le Conseil d'État a dit, ben, il ne faut pas l'invoquer depuis le début, on peut encore l'invoquer à la fin. Personnellement, j'étais pour l'autre solution. On purge tout de suite les illégalités, comme ça on sait que dans un processus où on doit avancer par étapes, quand une étape est franchie, elle l'est pour toujours. Et tant mieux, si le cahier des charges est biaisé, c'est plutôt que de réserver à la fin les bombes qui peuvent tout faire sauter au détriment de tout le monde. Mais ça, c'est une question de politique juridictionnelle du Conseil d'État. Mais l'autorité pourrait, effectivement, à chaque étape, justifier pourquoi elle fait ainsi, laisser aux gens le soin de critiquer si elles ne l'ont pas fait. Voilà, alors on avance à l'étape suivante. Et si elles le font, on sera vite départagé. La forme n'avait pas à être respectée parce qu'elle ne sert pas quelque chose qui, etc. Au contraire, elle devait l'être, et l'autorité, tu sais, n'est pas trop engagée, elle corrige immédiatement.
Oui.
Je voudrais simplement d'abord féliciter François pour son exposé, que j'ai trouvé très intéressant et très enrichissant, et les questions également. Et je voulais dire quelque chose à propos des formalités d'ordre public, et notamment la législation en matière linguistique. Je ne suis pas un chaud partisan de cette législation. Mais toujours est-il que cette législation est considérée comme étant d'ordre public. Et quand on prend la notion d'ordre public, la Cour de cassation nous dit qu'elle touche à des valeurs qui sont des valeurs fondamentales, qui touchent à, je dirais, la vie en société, même les fondements même de la vie en société. Et cette législation linguistique est considérée comme étant protectrice de valeurs fondamentales, sont le respect de chacune des langues, et des langues nationales. Nationales. Alors, effectivement, on peut considérer que l'anglais est la
la langue, je dirais, pratique, usuelle, habituellement utilisée à l'exclusion des langues nationales dans une série de secteurs, en aéronautique, en informatique, en économie et dans bien d'autres encore de domaines, l'informatique, etc., etc. Alors, de deux choses l'une. Ou bien on considère que la langue ne doit plus être protégée, qu'elle n'est plus une valeur fondamentale et que dans un pays bilingue comme le nôtre, il serait peut-être utile que tout le monde parle en anglais et garde le français ou le néerlandais pour usage domestique. C'est une option. Mais à partir du moment où le législateur considère qu'au contraire, il faut protéger les langues nationales, l'une contre l'autre, et vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis de l'impérialisme anglo-saxon. Je considère à ce moment-là que le juge n'a pas de pouvoir d'appréciation, puisque c'est considéré comme étant fondamental. Je sais bien que c'est une position peut-être un peu radicale et que certains de mes collègues ne partagent pas du tout cette opinion. Mais la seule solution possible dans un cas me paraît être que le législateur lui-même intervienne. Je vais vous donner un exemple en ce qui concerne l'aéronautique. En matière d'aéronautique, on est confronté, quand j'étais à la section de législation, on était systématiquement confronté à un problème énorme qui était celui des normes de l'aviation, qui sont toutes en anglais et qui sont exprimées en anglais et qui, je dirais, sortent à jet continu, c'est le cas de le dire. Autrement dit, il est presque impossible que l'on puisse, je dirais, traduire, que l'on puisse les mettre au moniteur, c'est également impossible, etc. Et j'ai constaté avec intérêt qu'un récent arrêt de la section du contentieux du Conseil d'État de juin, je pense, 2016, a considéré qu'effectivement, mais en se fondant sur le droit européen ou le droit international, en tout cas une convention, je pense, internationale, a considéré que la langue effectivement obligatoire était l'anglais, ce qui résolvait le problème, parce que c'est un problème de confrontation de droit international et de droit. Enfin voilà, je voulais en tout cas dire que pour certains esprits, il n'y a pas moyen de dire une règle d'ordre public est une règle d'ordre public, qui n'est pas une règle qui entraîne nécessairement. Alors ça coûte une fortune. Excusez-moi,
ouais,
c'est à l'autorité
même
de respecter sa propre réglementation.
Oui,
ma réponse
Michel, tu préfères juste dans la foulée ou alors d'abord François?
Vas-y, Michel.
Je viens de dire Robert Andersen qui a tout à fait raison quand il dit que tous ses collègues ne sont pas du même avis. Effectivement, le problème concernait l'emploi des langues et en matière d'aéronautique. À ce propos-là, on dira à Anne Emmanuel que entièrement d'accord avec elle quand elle se qualifie de rétrograde et formaliste. J'ajouterais de cartésienne, mais cartésienne dans un pays qui ne l'est pas. Parce que c'est vrai que si il faut tolérer, utilisons ce terme-là, certaines violations de règles, même d'ordre public, il vaudrait mieux changer les règles. Bon, mais en Belgique, on sait les choses étant ce qu'elles sont, changer les règles sur l'emploi des langues, c'est pas possible. Pour des raisons qui sont peut-être pas rationnelles, qui touchent aux symboliques, qui touchent à des tas de choses, mais c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et le problème qui s'est posé dans ces arrêts du mois de juin auxquels Robert Andersen vient de faire allusion, c'était dans le domaine de l'aéronautique, des autorisations d'effectuer des vols non réguliers, quelque chose de pure routine. Ça se fait toujours de la même manière, un formulaire en anglais, est rempli par une entreprise dont la succursale belge était établie près de Liège, rempli en anglais, envoyé à l'administration qui l'approuve en anglais. Enfin, l'approuve, c'est deux, trois mots, tout ça en anglais. Dans un domaine où il n'y a pas, on n'en a pas trouvé en tout cas, de législation internationale, de règles internationales qui impose l'emploi de la langue anglaise, dans un domaine où il n'y a pas de disposition nationale qui autorise de déroger aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative. C'est-à-dire que si on appliquait le droit belge, que comme l'entreprise avait son siège, je crois que c'était à Herstal ou quelque part par là, la décision aurait dû être prise en français. Le problème a été évoqué d'office, même par le Conseil d'État dans ses 5 arrêts, en disant que de toute façon, même si on n'a pas utilisé la langue grecque, ça n'aurait rien changé au sens de la décision. Parce que je crois que la notion d'ordre public relève d'un ordre d'idée partiellement au moins différent de la notion coulée dans l'article 14, paragraphe 1er, alinéa 2, donc cette idée d'intérêt au moyen, comme on l'appelle régulièrement. Le fait ici que tout était fait dans une langue qui n'est pas autorisée par les lois sur l'emploi des langues n'a eu aucune incidence sur le sens de la décision, pas refuser la décision, l'autorisation de vol, ni rien, si les lois sur l'emploi des langues avaient été respectées. Il y a deux notions qui sont différentes, qui doivent se recouper hein, dans une certaine mesure, mais pas entièrement. Donc sur ce point-là, il y a toujours une jurisprudence effectivement très récente.
Je te dis que 3 minutes parce que je crois qu'il y a cours juste après.
Ce sera 1 minute pour répondre. Donc à Robert, merci. Effectivement, Robert, je comprends toute la sensibilité sur les questions d'emploi des langues. Et l'arrêt Koons de 1966 le dit très clairement. Les prescriptions qui régissent l'emploi des langues ne tendent pas seulement à assurer aux personnes qui participent ou qui ont intérêt à l'accomplissement d'un acte administratif la facilité résultant pour eux de l'emploi de leur propre langue. C'est une valeur à laquelle je tiens. La facilité pour les gens de comprendre dans leur propre langue. La législation linguistique tend dans une égale mesure, au-delà des intérêts particuliers des individus, à protéger chaque langue nationale comme une valeur en soi. Tu l'as dit, assurant plus particulièrement dans la vie administrative la place qui lui revient. Égalité entre les deux langues dans le pays et nouvelle dimension, égalité ou défense de la langue face à une langue tierce. Bien entendu, je comprends aussi cette valeur-là. Mais dans l'affaire Bull, il me semble que même si cette législation, ces valeurs sont d'ordre public, on aurait pu considérer, mais au prix d'une peut-être un changement de jurisprudence, que Bull n'avait pas intérêt à ce moyen. Même si c'est d'ordre public. Dès lors que dans ce cas-ci, ils parlent anglais, ils font tout en anglais, etc., ça ne leur cause pas grief en tant que tel. Donc, je ne nie pas le caractère d'ordre public, je le rends moins absolu en le modalisant par une question d'intérêt. Si c'était une société flamande, qui, par exemple, disait, ou wallonne, francophone, qui dit, nous, on n'a rien compris. On est des génies de l'informatique, mais on est francophone, on travaille avec des Canadiens, des Québécois. Et on fait tout en français, nous. On a marre de la dominance anglaise. On a droit à quelque chose en français. Alors je comprendrais la décision. Mais ici, ça n'a aucun sens. Et donc j'essaie de trouver une formule pour respecter à la fois les valeurs de l'arrêt Koons et une décision qui me semble trop absolutiste et qui aboutit alors aux situations qui ont été dénoncées.
Voilà, timing parfait. Merci beaucoup. Un nouveau cycle de conférences va débuter au Centre de droit public, dont on vous tiendra bien sûr informé. Voilà, merci pour votre venue.